Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus à notre 9e édition de L'Edor Vador, la musique hébraïque, des générations en générations. Dans notre parcours chronologique de la musique hébraïque dans l'histoire de la musique occidentale, nous sommes arrivés, lors de notre précédente émission, au 18e siècle, le siècle des Lumières, celui qui prépare la Révolution française et surtout l'émancipation progressive des Juifs dans les différents pays en Europe, en commençant par la France, avec la Déclaration des droits de l'homme et son acceptation de sa population israélite, comme on l'appelait à l'époque en tant que citoyen, à égalité avec les membres des autres communautés présentes sur le sol français à cette époque-là, tout au moins dans la théorie. N'est-ce pas, Léo ?
Oui.
Voilà. Donc, dans la pratique, les choses se mettent en place lentement, avec des pas en avant, des pas en arrière, avec tous les va-et-vient qui ont rythmé la période de la pré-révolution. Au niveau musical, les choses se mettent en place doucement, mais on n'a pas encore une musique hébraïque qui se manifeste publiquement et qui laisse des traces au niveau de l'édition musicale ou la diffusion de la musique en concert, ce qui viendra peu à peu, un peu plus tard. Mais il faut bien imaginer qu'une pratique musicale existe. On chante en yiddish, on chante en hébreu, dans la synagogue bien sûr, mais aussi à la maison et dans les réunions familiales et autres festivités communautaires partout en Europe. Les partitions qui ont survécu de cette époque, on l'a dit, sont très peu nombreuses. Et comme à chaque époque, tout en ayant son lot d'airs traditionnels et des mélodies hébraïques, on adapte et on adopte des mélodies des airs venues d'ailleurs, et notamment de l'opéra et de la musique des concerts que peu à peu, les Juifs commencent à fréquenter avec un peu moins de restrictions qu'auparavant. Ainsi, on trouve des témoignages de certains personnages exceptionnels comme le chanteur Israël Lovi, qui est né en 1773 à Schottland près de Danzig, tout au nord de l'Allemagne, dans une région qu'à l'époque était encore polonaise. Lovi, fils de petit et petit-fils de Chazanim, est formé pour devenir chanteur de synagogue, mais s'initie également à la musique classique en étudiant le violon, le piano et le chant lyrique, ainsi que la composition musicale, naturellement dans le style de son époque, le style classique, celui de Haydn et de Mozart. Ça te dit quelque chose, Léo, n'est-ce pas ?
Plus ou moins, oui.
Plus ou moins, voilà. J'espère que les auditeurs sont aussi familiers avec ces deux compositeurs. Selon certains témoignages, Lovi découvre à Fürth, la ville allemande où il exerce en tant que chazan, la musique de ces deux compositeurs et il devient un interprète passionné de leur musique. D'autres sources affirment qu'il a même participé à la création de l'oratorio Der Schöpfung, la création de Haydn, en tant que soliste. Dans tous les cas, on peut très bien imaginer qu'il ait adapté, comme il était d'usage, certains des airs classiques à des textes hébraïques. Écoutons ce que cela pouvait donner.
Mm-hmm.
En effet, Lovi avait une voix de basse, tout comme Jean Moissonnier, qui interprète l'air de Mozart en hébreu. Jean Moissonnier, que nous avons reçu il y a quelques semaines comme invité ici pour les programmes dédiés à Salomon Rossi. Et donc, il est accompagné ici par les voix masculines de l'ensemble vocal hébraïque. Vous avez reconnu, je dis vous pour le public, mais toi aussi, Léon, tu as reconnu peut-être l'un des airs du grand prêtre Sarastro, extrait de l'opéra
La flûte enchantée de Mozart.
La flûte enchantée de Mozart, exactement. On sait avec certitude que Lovi a parcouru l'Allemagne en chantant de la musique hébraïque et de la musique classique également. Tu vois donc ce qui aurait pu donner. Et en fait, on n'a pas trouvé cette partition, mais c'est moi qui l'ai imaginé, qui a adapté cette musique avec un texte bien connu de la liturgie hébraïque, Emet ve'emuna, en hébreu séfarade, Emet ve'emuno pour les amis ashkénazes. Et donc, voici un bel exemple du type d'adaptation qui était très fréquente à l'époque. Après Fürth et Mayence, on le retrouve, le personnage Israël Lovi, à Strasbourg, ici même, pendant quelques années, en tant que tout premier chazan de la nouvelle synagogue consistoriale, où il a laissé la marque de son passage en introduisant des airs nouveaux, certainement jamais entendus auparavant dans nos contrées. Voici à présent donc l'une de ses compositions les plus célèbres, Zochreinu Lechaim, Souviens-toi de nous pour la vie, qui a été publiée à Paris par Samuel Nomburg, un autre compositeur chantre des synagogues dont on s'occupera prochainement. En 1847, donc 15 ans après la disparition de Lovi, et il y a cette publication de Nomburg de la musique de Lovi. Cette composition fait partie du répertoire et des chants du chœur pour les grandes fêtes. Et on va l'entendre ici dans un enregistrement live d'un concert donné à Strasbourg il n'y a pas longtemps par les polyphonies hébraïques de Strasbourg en mai 2007. Donc,
2017.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
2007.
Oui, non, pas 2007, en mai 2017. Merci Léo. Donc il y a juste quelques mois, au jour d'aujourd'hui, où on écoute cette émission. Écoutons donc Zochreinu Lechaim de Israël Lovi. Vous avez entendu, tu as entendu Léo aussi. Oui. Hein, si vous êtes un peu mélomane et que vous aimez la musique de Schubert, un petit air de cette musique qui vous rappelle peut-être cette autre musique. Voilà, j'espère que tout le monde a reconnu cette mélodie. Qui est utilisée à l'identique, même tempo, même expression. Et c'est pas du hasard. Qu'est-ce que tu penses, Léo?
Ouais, bah oui. Il me semble aussi que c'est la même tonalité, mais je ne suis pas sûr.
Pratiquement la même tonalité. Ouais. Sauf qu'ici, l'enregistrement qu'on entend, il est fait avec des instruments d'époque. Mm. Donc, c'est un orchestre et avec des instruments accordés un demi-ton plus bas que les instruments actuels, ce qui fait une petite différence, mais c'est presque dans la même tonalité. Il faut expliquer ici que cela n'est peut-être pas le fruit d'un pur hasard. En faisant des recherches, j'ai essayé de comprendre pourquoi on retrouve chez Lovi une mélodie de Schubert. Ou plutôt le contraire. Lovi est né en 1773 et il est mort en 1832. Schubert est né en 1797 et il est mort très jeune à l'âge de 31 ans en 1828. À Vienne où il a vécu, il a rencontré et s'est lié d'amitié avec les cantors de la synagogue de Vienne, le jeune Salomon Zulzer. Et celui-ci, en étant enfant, s'est initié à l'art cantorial auprès d'un maître qui l'a amené en tournée où, justement,
En Alsace.
Donc il était bien à Strasbourg. Et comme il était courant en ces temps-là, précisément à l'époque de Lovi, où Lovi était actif dans notre ville, le jeune Zulzer a donc probablement noté les mélodies de Lovi qu'il avait entendues, dont il a pris connaissance lors de son voyage, puis les a montrées à son ami Franz Schubert à son retour à Vienne, et notamment lorsqu'il lui a passé commande pour une composition en hébreu composée spécialement pour la synagogue. Ceci peut probablement expliquer la grande similitude de ces deux mélodies. À présent, je voudrais vous faire entendre, cher public, et Léo aussi, une autre composition chorale de Lovi, Ki Keshim Cho, car ton nom, qui fait partie également du répertoire conservé à Strasbourg pour l'usage synagogal pour les grandes fêtes. Écoutons donc la version qui a été publiée à Paris par les petits-fils de Lovi en 1865, soit 33 ans après la disparition du compositeur.
Thank you.
Voilà, on a écouté donc un extrait de Kikeshimcho de Lovi dans son édition posthume hein, de 65. Mais pendant qu'on écoutait, Léo me fait une remarque. Léo.
Oui, donc il a oublié de préciser le titre de l'œuvre de Schubert.
Il, c'est moi.
Oui, bien évidemment.
Papa, voilà.
Oui, donc l'œuvre de Schubert que nous avons entendue.
C'est bien la symphonie inachevée, hein, oui. Numéro 8, c'est le deuxième mouvement. Ouais. Et c'est le deuxième thème de ce deuxième mouvement qui mm-hmm. est, comme son nom l'indique, la symphonie est inachevée parce qu'il n'y a pas de troisième ni de quatrième mouvement. Et c'est la plus connue, hein, franchement. Les mélomanes, et, je pense, reconnaîtront cette belle symphonie. Donc, pour revenir à Kikeshimcho qu'on vient d'entendre, cette magnifique composition chorale reprend probablement un vieil air traditionnel polonais, selon les propos que j'ai pu recueillir lors de la première exécution locale de la symphonie numéro 3 du compositeur contemporain Henryk Gorecki, lorsqu'il a été joué par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg en 1991. Ayant rencontré les compositeurs après les concerts, je lui ai posé la question sur l'origine de cette mélodie, la même que celle que nous venons d'entendre dans Kikeshimcho. Il m'a répondu qu'il s'agit d'une vieille mélodie chrétienne polonaise. Alors j'y ai pensé, sauf s'il y a une vieille mélodie juive polonaise reprise par Lovi pour sa composition. On ne saura peut-être jamais quelle est l'origine première de cette mélodie, mais cela n'a pas beaucoup d'importance, n'est-ce pas Léo? Mm. C'est une mélodie d'une très belle simplicité, émouvante, prenante, chantée en hébreu et les juifs. Chantée en latin ou en polonais ancien, probablement, elle devient chrétienne. Qui sait alors? Dans tous les cas, et comme on l'avait déjà vu dans notre toute première émission, les mélodies passent parfois d'une langue à l'autre et on ne sait pas précisément dans quel ordre. Mmh. À présent, je voudrais vous faire entendre, cher public, la même composition de Lovi, mais cette fois-ci dans un arrangement réalisé par Samuel Nombourg et publié dans son édition des partitions de 1847. Donc, bien avant celle publiée par les petits-fils de Lovi, où les partitions sont davantage originales. Nombourg a repris la mélodie de Lovi et tout en inscrivant en tête de la partition « Mélodie de Lovi », il harmonise à sa manière ce Kikeshimcho. Écoutons. Thank you. Voilà, on entend clairement ici comment Nambour réécrit l'Ovide dans un style nouveau, le style romantique, qui contraste avec les classicismes de l'Ovide et prend d'autres couleurs avec un effectif qui comporte un quatuor de solistes en alternance avec les chœurs. Oui, vas-y.
Et on sait pourquoi Nambour, il a réécrit l'Ovide.
C'était une sorte d'hommage qu'il a fait. Il a réécrit l'Ovide, il a réécrit plein d'autres compositeurs aussi de son temps et de la génération précédente. C'était habituel à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de compositeurs qui étaient édités. Donc quand il y avait la possibilité, on éditait aussi les autres. Et comme le temps est un peu court, Léo, il va falloir qu'on avance. Et comme nous avons commencé avec Mozart, nous allons terminer avec Mozart. Et on va écouter cela et on va dire après ce que c'est. Voilà. Alors, tu connais cet air, Léo, n'est-ce pas ?
Bien sûr, bien sûr.
Il s'agit de ?
C'est un des airs de Zarathustra dans La Flûte Enchantée.
Voilà, c'est l'autre air de Zarathustra. Ouais. On a écouté un début de programme, le premier air, et ça, c'est les deuxièmes airs, ou plutôt les contraires. Hein, dans l'opéra, ils apparaissent dans un ordre différent. Adon Olam, Seigneur de l'univers, hein, qui est l'hymne bien connu de la liturgie hébraïque. Et donc, une fois de plus, Jean Moissonnier, accompagné par le soliste de l'ensemble Hébraïka, qui interprète cet air Adon Olam sur la musique de Mozart, comme probablement ça aurait pu être le cas. Eh bien, nous arrivons ainsi à la fin de notre émission. La semaine prochaine, nous aborderons la musique de Samuel Nambourg, le plus important des musiciens français dans la musique synagogale du 19e siècle. Merci Léo pour ta participation.
De rien.
Et à tout le monde, à la prochaine.